Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet que j'ai déjà abordé dans des émissions précédentes. C'était Charles de Perriand, et donc ça, j'avais démonté aujourd'hui le mythe construit autour de Charles de Perriand, qui serait une figure qui aurait été exploitée, méconnue, et j'avais montré qu'il n'en était rien, et qu'il s'agissait surtout essentiellement d'une manœuvre financière établie par des gens qui avaient l'intérêt, à la fois la Fondation Le Corbusier, héritière des droits d'auteur de Le Corbusier, et aussi la famille Perriand. Et bien sûr, ça tombait bien dans l'esprit aujourd'hui où il fallait dénoncer le machisme. On avait donc trouvé Le Corbusier comme figure emblématique de ce combat qui, certes, peut être légitime et dans certains cas, mais qui ne peut pas être appliqué dans tous les cas. Donc, j'essayais de rétablir une vérité et de montrer que Charles de Perriand n'avait pas été du tout méconnu, mais au contraire, je pense qu'elle était pour une œuvre assez étroite et pas très innovante, et elle avait été donc la collaboratrice de Le Corbusier pour un mobilier important, mais au statut de collaborateur et pas du tout comme on le prétend, la seule initiatrice de ce projet de mobilier extrêmement connu sur la série LC, édité par Cassina, et que c'était bien au contraire, c'était vraiment le Corbusier et pas du tout ce qu'on essayait de dire aujourd'hui, où Le Corbusier aurait volé Charles de Perriand. Donc évidemment, je ne vais pas dans le sens, on peut dire, de la pensée d'aujourd'hui, et non pas que je veuille me racheter, mais j'allais raconter une histoire qui a les mêmes protagonistes, en tout cas Le Corbusier et une femme, c'est Aileen Gray, qui est une Irlandaise designer, et qui, elle, a été vraiment méconnue, et il y a une histoire fort intéressante autour de la maison qu'elle a bâtie sur la côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin, et c'est ce récit que je voulais vous donner. Alors, ce thème, on peut dire, de la sexualisation de l'architecture, du design et de la peinture est fort à la mode aujourd'hui, et je ne nie pas qu'il y a très certainement, enfin qu'il y a, sûrement des femmes qui ont été méconnues dans leur influence par effectivement on peut dire une domination masculine, ça ne fait aucun doute. Par contre, aujourd'hui, la sexualisation que l'on a des œuvres d'architecture, et notamment cet mouvement qui rentre dans les écoles d'architecture où on essaie de trouver un genre aux places, aux villes, aux architectures, là je pense qu'on est dans un délire, et je ne crois pas du tout qu'il y a une sexualisation dans le rôle justement des femmes et des hommes dans l'art. Alors, j'avais déjà dit, et je vais me répéter par rapport au fait que les femmes n'ont pas eu accès pendant longtemps à la profession d'architecte, ce n'est pas le fait du patriarcat, mais c'était pour une raison qui est assez simple, c'est que les écoles d'architecture, d'abord, n'existent que depuis très peu de temps, c'est l'école des beaux-arts à la fin du 19e siècle, et l'apprentissage se faisait, on peut dire, de maître à apprenti, et notamment sur les chantiers, et les chantiers sont toujours dangereux, mais étaient infiniment plus dangereux et dans les époques précédentes, et donc c'était un métier où l'architecte n'était pas dissocié de l'entrepreneur. Disons que les architectes étaient souvent des gens qui commençaient sur les chantiers et puis qui s'autonomisaient à travers le compagnonnage, et puis ensuite ils avaient aussi des métiers qui étaient, jusqu'à d'ailleurs une période assez récente, mélangée entre l'entrepreneur et l'architecte. Donc Ce fait-là, effectivement, faisait que pour des raisons, ne serait-ce que pratiques, les jupes des femmes et les chantiers n'étaient pas très compatibles, et surtout, c'était un métier très fatigant et dangereux. Donc, il n'y a pas effectivement de qualité et de caractère spécifique. Et c'est le paradoxe d'ailleurs de ces études qui, sous le prétexte de l'égalitarisme, et par exemple dans le cas de Perriand, c'est assez curieux, on dit elle avait apporté à Le Corbusier, qui était quelqu'un de dur et avec une architecture théorique et froide, elle avait apporté de la chaleur humaine. Alors là, c'est totalement faux. Parce que dans le cas de Le Corbusier, qui était effectivement une personnalité froide, dure, mais son architecture ne l'était pas. Et on peut, pour les gens qui se donnent la peine d'aller voir la reconstitution, par exemple, à Paris, de l'appartement témoin de l'unité d'habitation, et ceux qui peuvent aller dans ces unités d'habitation verront que les détails, justement, de rampes, de marches d'escalier, les formes sont arrondies pour que le corps humain ne puisse pas avoir des coups, et donc il y a justement un souci dans le moindre détail chez Le Corbusier de la vie courante, et notamment dans justement ce qui était constitué non pas des demeures pour les riches, mais de l'habitat pour les classes populaires. Donc, cette critique est injustifiée. D'ailleurs, la fameuse bibliothèque que l'on voit de Charles de Perriand, avec ses angles vifs, me paraît infiniment plus agressive que toutes les formes qu'ont créées Le Corbusier. Donc, je vais venir donc à vous parler de Ellen Gray. Alors, Ellen Gray, d'abord, elle est irlandaise et elle a, à l'inverse de Charles de Perriand, elle vient d'une famille riche, je crois même très riche, et elle a une formation dans une école irlandaise de design, d'art. Enfin, le design, le mot n'était pas employé, mais on peut dire que elle bénéficie d'une éducation artistique poussée. Elle naît donc en Irlande en 1878. Alors c'est important les dates, comme je vous disais, par exemple de Picasso et Ellen Gray. C'est aussi intéressant de voir qu'elle est née en 1878 et Le Corbusier en 1887. C'est-à-dire que Le Corbusier est plus jeune qu'elle, presque de 10 ans. Donc, cette personne qu'il va rencontrer, notamment lors de la construction de cette fameuse maison qui s'appelle E1027, et donc il s'agit d'une histoire assez complexe sur les chiffres et les lettres entre son amant de l'époque qui est architecte, qui s'appelle Jean Vadovici, mais il ne s'agit pas d'un couple de créateurs, il s'agit d'une création justement de Ellen Gray, ou qui n'est pas à être attribué à quelqu'un d'autre, même si aujourd'hui on a parlé des couples d'architectes, ce n'est pas du tout le cas. Donc ce Badovici, qui est son amant à ce moment-là, Jean Badovici, il a un diplôme d'architecte roumain, mais en fait c'est quelqu'un qui n'a pas construit et qui est en relations publiques, éditeur, qui fréquente le milieu, on peut dire, de l'élite artistique et architecturale de son temps. Donc, Ellen Gray va construire entre les années 26 et 29, je pense que grâce à sa fortune personnelle, très certainement, cette maison qui est une maison tout à fait étonnante de modernité et surtout d'une qualité de détail assez stupéfiante, avec aussi du mobilier. Et ce mobilier qui sera à l'époque reconnu, mais quelque part aussi, même si on va le retrouver dans les années, on peut dire, de l'après-guerre, dans des ventes aux enchères et d'une manière beaucoup plus récente, aussi à des prix très élevés, Ellen Gray avait complètement disparu, on peut dire, des radars. Et en fait, elle a vécu très longtemps, puisqu'elle est morte presque centenaire, à 98 ans, et elle est dans un oubli total. Alors, ce qui n'a pas été le cas de Perrien, qui, jusqu'à la fin de sa vie, à un âge aussi avancé, je crois de 96 ans, ou 93 ans, elle a été justement une figure qui prenait la lumière et qui savait se faire valoir. Donc on a une disparition de Ellen Gray que l'on croyait morte, qui vivait à Paris et qui a été enterrée à Paris au Père Lachaise. Et donc c'est une histoire assez stupéfiante. Donc je reviens à cette maison qui a connu un sort curieux, parce qu'elle a été dans un état de délabrement et d'abandon. Elle a été pendant des années squattée, elle a été pillée, et il y a eu donc des tentatives de restauration, et jusqu'à une période tout à fait récente, là, très récente, où il y a une restauration maintenant qui est digne de cette maison, parce que malgré toutes les vicissitudes des bâtiments de France, de la région, PACA, etc., pour la préserver, non, c'est les arcanes de la bureaucratie française, donc il a fallu attendre très longtemps pour qu'elle retrouve son état d'origine. Alors, la question, c'est que vient faire Le Corbusier dans cette affaire. Donc Le Corbusier, encore une fois, n'est absolument pas associé à la construction de cette maison, mais cette maison, elle est, on peut dire, dans le style de la maison Savoie. Elle a aussi la même prétention au détail et à l'ameublement complet, c'est-à-dire une œuvre complète que celle que va produire Le Corbusier. Et Le Corbusier est invité par Badovici, qui, comme je vous disais, est un homme d'entre-gens et éditeur d'architecture, et sidéré par la qualité de ce projet. Et alors, évidemment, la version, on peut dire, moderne, c'est de dire, oui, c'est un machiste, et il trouve que il est incroyable qu'une femme ait pu faire ça. Moi, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de refaire l'histoire de Le Corbusier comme macho. Apparemment, d'après les biographies que j'ai pu lire, ça ne me paraît pas tellement évident. Il a effectivement dans ses relations des femmes qui ont du caractère, donc je n'adhère pas du tout à cette vision, mais en tout cas, dans le cas surtout, là où il est vraiment furieux et jaloux, c'est que cette jeune femme réussit à faire un coup de maître dans son premier projet, ce qui est assez sidérant. Le Corbusier, déjà, il a eu plusieurs... Il a commencé très jeune, la maison de ses parents, etc. Et puis, son style a évolué pour avoir un style moderne. Tandis que là, on a une créatrice qui arrive à faire un chef-d'œuvre complet, sans avoir fait des esquisses préalables ou des essais préalables. C'est tout à fait étonnant. Et je pense que Le Corbusier est très jaloux. Alors, ce qui va être extrêmement curieux, c'est qu'il va donner son empreinte, et je vais vous parler de cela dans la deuxième partie, après la pause musicale. We'll be right back.
I won't ever hit the ground, playing dead, I'll never do. Gotta keep an eye on you. Patience is wearing thin, paper thin, promises broke again. What a sin, but it only feeds my energy. So don't expect no sympathy. Smoke, fire, it's all gone.
Donc, Le Corbusier est invité par Jean Badovici, je pense que c'est dans les années 1934. Hélène Reyne s'est séparée de ce compagnon et était. Ne revient pas très souvent à la maison et donc Badovici invite Le Corbusier et sa femme pour les vacances en Corbusier. D'ailleurs, Le Corbusier construira pas très loin le fameux cabanon qui a une notoriété extraordinaire que je personnellement je ne comprends pas très bien parce que ça me paraît être sans grand intérêt, mais ce cabanon qui est devenu une icône, mais qui est une petite boîte de bois qui est pas très loin de cette maison qui elle par contre si elle n'est pas immense, mais enfin c'est une maison qui est maisons blanches, sur pilotis, dominant la mer, et qui est évidemment puriste et moderne dans le plus grand raffinement des détails. Donc, Le Corbusier profite de ses vacances dans cette magnifique maison située dans un endroit paradisiaque pour peindre sur les murs blancs des fresques. Alors, pas un petit morceau, c'est-à-dire qu'en fait, il va peindre. Alors, les chiffres varient parce qu'on parle de 6 à 8 fresques. Mais il s'agit surtout, il couvre les murs et Le Corbusier, bon, a une peinture qui est assez caractéristique. Je fais un petit résumé. Il a été d'abord avec son ami aux enfants. Il a fait une peinture, on peut dire, puriste, avec des éléments cylindriques, cubistes. Et puis, dans la deuxième partie, on peut dire c'est beaucoup plus expressionniste, dans un style qui va être celui de Picasso et de Matisse à l'époque, mais il va continuer sur cela d'une manière un peu répétitive qui aujourd'hui, à l'époque pas très reconnue, mais aujourd'hui ça se vend très cher. Bon, mais ça c'est aussi le fruit de la spéculation. Ce n'est pas inintéressant, mais enfin ça n'a pas l'originalité de Matisse. Comme je le disais, c'est assez répétitif. Donc, par contre, il va non pas faire des toiles que l'on accrocherait, mais il va peindre directement sur les parois blanches. Et c'est évidemment, ça sera considéré par certains comme un viol symbolique, mais un viol dans cette maison. Et il ne va pas le peindre qu'en une fois, il va y revenir, il va marquer les dates, et on aura donc en 39, puis en 49 et jusqu'en 62, il va revenir sur cette maison par une sorte, alors c'est extrêmement curieux, parce que une appropriation d'un lieu qu'il ne possède pas, qui est, dont il connaît la créatrice qu'il admire, et il y a quelque chose qui est, comme je vous disais, de l'ordre du viol, de la possession, et là c'est effectivement exactement l'inverse de ce que je vous ai raconté de Perian, une attitude qui est assez incompréhensible et que je trouve extrêmement, extrêmement choquante. Donc, cette maison va être d'ailleurs avoir une destinée étrange. Donc, Badovici meurt en 56. Et donc, Le Corbusier, qui effectivement tient à terminer son œuvre dans une maison qui n'est pas à lui, qui n'a pas, en tant que propriétaire, qui n'est pas à lui non plus en tant qu'architecte, c'est-à-dire ce n'est pas son œuvre, totalement, on peut dire, perturbé et revient sur les lieux du crime. Alors, cette maison, après la mort de Badovici, elle revient à sa sœur qui est nonne en Roumanie, et donc le Corbusier convainc quelqu'un qu'il connaît, qui est une riche personne de nationalité suisse, Madame Schelbert, de l'acheter. Ce qu'elle fait, et ensuite, elle n'y habite pas, et elle la donne à son gynécologue. Alors oui, l'histoire est assez compliquée, et vous allez voir, c'est une histoire assez sexuelle. Alors, il y a aussi le fait, qui est dit par un critique américain, qui pense qu'il y a, chez Le Corbusier, par exemple, par rapport à Ellen Gray, qui... et bisexuelle, mais surtout, surtout lesbienne. Et elle, je crois qu'elle va finir sa vie avec une compagne. Et que Le Corbusier est assez dérangé par cela. Bon, c'est des choses assez difficiles à prouver, comme le fait, par exemple, pour parler de sexualité, parce que cette histoire année mêlée, l'histoire de Perriand et de Le Corbusier, que Le Corbusier aurait agressé Perriand en lui disant, en lui demandant si elle était lesbienne, parce que elle n'aurait pas répondu aux avances de son cousin. Bon, je sais je l'ai déjà dit que le fameux Pierre Jeanneret, que la famille Perriand la famille Perriand lui attribue une relation, une longue relation entre Perriand et le cousin de et le fameux cousin Pierre Jeanneret. Bon, il semble que cette histoire, à mon sens, n'est pas vraie, parce que Pierre Jeanneret était un homosexuel pur et dur, et que ce soit Le Corbusier, au contraire, qui était l'amant de Chariot de Perriand, ce que on voit quand même sur les photos qui sont assez étonnantes, et notamment dans le livre de Laure Adler, où on a un regard énamouré de Perriand et de Le Corbusier qui ne laisse pas planer de doute, à mon sens, sur leur relation, et qui expliquerait ce qui ne dérange en rien l'histoire, qui expliquerait que bon, ils ont eu une relation avec à la fois des hauts et des bas, mais qui a perduré toute leur vie, qui me paraît beaucoup plus liée à des passions amoureuses qu'une simple histoire de business et d'affaires. Alors, je continue mon histoire avec le fameux gynécologue, qui est un drôle de bonhomme, qui est un morphinomane, un joueur, un type endetté, et qui organise des orgies dans la maison de Helen Gray, et qui va finir assassiné par deux amants qu'il n'aurait pas payé, enfin une histoire de crime rocambolesque qui se produit donc dans cette maison. Donc cette maison apparaît un peu damnée, elle est abandonnée, elle est squattée jusque, effectivement, ce que je vous disais, le renouveau actuel. Donc, vous voyez, on est dans du roman, dans cette histoire, il y a absolument tous les protagonistes, à la fois cette fin avec le crime, les scènes d'orgie dans cette maison, le viol symbolique de Le Corbusier et sa jalousie envers on peut dire consoeur, ou qu'il trouve incompréhensible la qualité de son travail, et apparemment il y a une jalousie qui persiste quasiment toute sa vie par rapport à cela. On est vraiment dans de la relation passionnelle. Et l'histoire de Charlotte de Perriand, à mon sens, n'est pas dénuée d'intérêt si on le regarde aussi sous le point de vue de la passion et aussi du mensonge, des choses dissimulées, des choses qui ont été construites. Alors là, par exemple, le mystère de Helen Gray qui disparaît totalement et qui ne revient que sur la scène internationale par la vente à des prix faramineux. On a atteint le million d'euros pour ses œuvres, et est une histoire absolument étonnante de l'art du XXe siècle. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, qui était une espèce de roman policier qui entremêlait à la fois je pense à la vérité historique que j'ai essayé de reconstituer d'après des témoignages qui me semblent fiables d'historiens, à la fois toutes les déformations qui sont faites par rapport à ces sujets, et puis oui, derrière cela il y a effectivement cette sexualisation du métier de l'architecture qui me paraît une aberration, parce que quand on regarde un bâtiment, on ne peut pas savoir si c'est une femme ou un homme qui les fait. Et je ne crois pas du tout au fait que on ait une domination patriarcale sur le design. Et comme je vous disais, le propos est beaucoup plus sexiste de vouloir attribuer un caractère différent à l'architecture féminine et lui donner justement une sexualisation que de dire que c'est totalement neutre, comme j'essaie de vous le montrer, dans ce type de production artistique, autant dans l'urbanisme qu'en dans l'architecture, d'essayer de trouver un genre à des choses qui n'en ont pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.